Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Bonjour et bienvenue à tous à cette 74e épisode de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais j'aimerais vous rappeler que Pop en Stock est une revue savante, nouveau genre, portant sur toutes les études pop les plus diversifiées et intéressantes, de plus d'être une collection d'essais dans la maison d'édition Ta Mère. Et en plus, en petit complément, nous sommes un podcast que vous écoutez probablement à l'instant. Tout ça est très agréable et vous savez bien que le Pop en Stock a comme mission ultime de réunir en champs d'intérêt divers et ou connexes et pluriels, on peut dire, des gens qui veulent faire rehausser la qualité de la discussion autour des objets de la culture populaire. C'est définitivement ce qu'on va avoir aujourd'hui, parce que notre table d'invités est assez imposante. Hein, n'est-ce pas? Imposante, c'est le mot, là. Je cherchais vraiment des synonymes. Imposant, oui. Intimidant. Moi, je vais y aller pour intimidant. Je vous aime énormément, mais je me sens... J'ai l'impression que ma chaise est juste un peu plus basse. Aujourd'hui, je vais commencer avec Philippe Saint-Germain. Bonjour!
Bonjour, Jean-Michel.
Salut!
Salut!
Ça va bien?
Ah oui, ça va très bien, toi?
Ben oui, absolument. On fait une introduction assez sommaire. T'es professeur de cégep, professeur de philosophie au cégep? De...
Oui, ANSIC.
ANSIC, merci beaucoup. Guillaume Couture?
Oui, bonjour.
Allô, ça fait longtemps quand même.
Oui, j'aime bien dire socialement que je suis un collaborateur à Pop en Stock, mais c'est de moins en moins vrai, faut que je... Voilà, me voilà, en fait.
Ouais, non, mais t'es une partie dans la Triforce, t'es clairement comme... un des triangles qu'à la fin, il faut qu'ils viennent tous ensemble. Non. Absent, mais important, n'est-ce pas? Et Myriam d'Aguzan-Bernier, je l'ai tué.
J'ai peur pendant deux
secondes. Il y a un moment quand j'ai regardé vers ma fin.
Allô?
Bonjour, merci énormément de joindre dans la grande famille de Pop en Stock.
Merci de l'invitation.
Pour un sujet assez spécial aujourd'hui. Oui, quand même. J'ai vraiment trouvé ça drôle, parce que c'est une émission qui a été proposée par Philippe, puis... étrangement, je pensais qu'on se retrouverait seulement les deux. Un peu comme l'invisibilité, j'étais comme, on va se retrouver ensemble, va être une conversation fleuve, très intéressante. Mm-hmm. Mais non, il y a eu énormément d'intérêt, et vous restez, on parle aujourd'hui de la greffe, mais la greffe dans pratiquement toutes ses sphères et dimensions, répercussions. En préparant l'émission, je réalisais que l'émission va un peu prendre la forme de l'adage de la troisième loi d'Arthur C. Clarke, en quoi est-ce que la magie... à un point, j'essaie de la traduire assez librement, là, mais la magie est indissociable d'une technologie sur une ligne de temps. En quoi est-ce qu'on voit des choses que l'on ne peut pas comprendre, que l'on ne peut pas expliquer, et qu'on relègue immédiatement au dossier magie. Hop, je catch pas ça, ça fait que ça doit être quelque chose... ça doit être un sorcier, ça doit être un occultiste. Mais de plus en plus que la technologie avance, le plus qu'on comprend... comment, et là, quand je dis « on », je veux dire « civilisation », le gros « on » sur cette roche qui flotte, et on comprend que c'est la technologie. Et la greffe est définitivement un des grands symboles de cette troisième loi-là, parce que la greffe existe et fait partie de l'imaginaire humain depuis tellement longtemps qu'elle est quasi mythologique. Je repensais aux greffes divine, je pensais à Kali qui a plusieurs bras, donc une greffe de bras. Je pensais aussi à, j'avais un autre exemple en fait qui me revient pas pour le moment, le troisième œil, toutes ces idées-là de d'appendices qu'on est capable de rajouter sur un humain qui fait qu'il est plus qu'humain. Fait que la greffe est vraiment quelque chose qui est encodé dans notre imaginaire et qui existe depuis très 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 longtemps. Fait qu'on a une heure pour essayer de le couvrir dans son maximum.
Gros contrat.
Oui, c'est ça. Parce que le plus qu'on avance, le plus qu'on constate que la greffe est en train de devenir un truc extrêmement réalisable dans le contemporain.
Le réel rejoint la fiction.
Exactement. Ça a juste pris 2500 ans.
Et c'est ce qu'on disait avant l'émission. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties cette semaine à propos de la greffe. En fait, c'est un sujet bien en vie.
Le timing est parfait.
Absolument. Je vais pouvoir faire le tour de ça, des actualités. Est-ce que tu veux que j'y aille maintenant?
Ben, on va commencer. Je dirais que. Ben, c'est sûr que ça va. C'est certain qu'on
c'était
va finir.
C'était pas clair.
C'était pas clair, me semble que je l'ai dit. Ah! Il y a une ligne de temps, mais c'est ça, c'est qu'on on est rendu au point où des trucs qui étaient fantasmés à l'époque commencent à devenir dans le très concret. Il y a deux lectures que Philippe, tu m'as conseillé que je les lisais. Que je les ai lus de façon très, très, très étrange, parce que « Corps désirable » et « Réparer les vivants », deux auteurs avec des noms que je ne m'aventurerai pas à prononcer ici, malheureusement. Mais allez chercher ça. En ouvrant les livres, j'avais ce contrat de lecture-là que j'allais lire des trucs sur les greffes. Puis, étant un lecteur de science-fiction, fantasy assez aguerri...
T'as pas trouvé les genres...
Pas du tout. Puis je me suis trouvé totalement déstabilisé dans ces lectures-là. Puis je suis comme « Oh non, non, c'est des récits... » extrêmement réaliste, qui parle véritablement des problèmes de cet imaginaire-là, maintenant qu'on les sent dans notre hyper-contemporanéité. Puis ça m'a comme...
Est-ce qu'on est déjà à la recherche de la catharsis? Parce qu'on sent que la greffe est désormais une possibilité particulièrement palpable. Est-ce qu'on est en train de se doter de récits réalistes pour s'armer d'idées nouvelles, en fait?
J'ai...
Je pense que oui.
Ouais, moi, c'est vraiment ça. C'est l'imaginaire qui fait comme, OK, il faut qu'on avance un peu parce que là, la fiction est en train de se faire dépasser par la réalité et l'art sert beaucoup à présenter ou à introduire ou à...
faire passer les choses.
Ouais, c'est ça, à aider la passation. Puis là, c'est comme... Ben,
ouais, annoncer
ouais,
des
faut
choses
qu'on fasse.
Développer.
Non, parce que l'annoncer, c'est déjà... Ben, c'est un peu de ça que tu m'as parlé, toi, avec les aspects de science-fiction et fantasy. L'annonce, elle existe depuis tellement longtemps.
Ouais, c'était peut-être proposer un petit panorama, là. C'est sûr que ce sera pas exhaustif aujourd'hui, mais revenir un peu sur quelques étapes un peu déterminante là, dans l'histoire des fictions de la greffe. Puis moi, j'ai choisi un filon en particulier là-dedans, que moi, j'ai appelé le greffon rebelle, c'est-à-dire toutes ces histoires dans lesquelles tu as un greffon qui semble prendre possession du greffé, ou en tout cas qui a l'air de plus agir selon son plein gré. Je vais arrêter à une couple de citations. Il y en a là-dedans qui sont super connues, là, des histoires, des contes ou des films. Il y en a qui le sont peut-être moins. Le premier sur lequel je voudrais revenir, ça, c'est un petit conte des frères Grimm. C'est quand même un petit bout. Ça s'appelle « Les trois barbiers du régiment ». Je sais pas exactement pourquoi, parce que c'est trois chirurgiens, les personnages principaux. J'ai pas fouillé trop là-dessus. Donc, c'est déjà des espèces de chirurgiens globetrotters qui se promènent, qui font des espèces de chirurgiens un peu spectaculaires, qui proposent aux aubergistes de faire une greffe spectacle. Purement et simplement, ils disent « Écoute, on va se retirer des organes ce soir et on va se les regreffer demain matin. Juste pour votre bon plaisir. » Ça règle absolument rien. Habituellement, dans les fictions, la greffe est là pour restaurer quelque chose ou... même s'il y a des savants fous à un moment donné qui vont faire des greffes plus créatives qu'autre chose. Donc, on se greffe les organes, ils sont subtilisés pendant la nuit, et là, on les remplace, attendez un instant, par les yeux d'un chat. Donc, c'est un chat qui a subtilisé les organes, alors on y enlève les yeux pour le punir. Les mains d'un voleur, je ne sais pas exactement ce qu'on lui enlève, pourquoi on le vise, et le cœur d'un cochon aussi. Donc, ces chirurgiens-là vont se regreffer ça le lendemain matin et commencer à agir bizarrement. Déjà là, il y a une couple de choses qui allaient avoir une postérité assez grande. Déjà, les mains, je sais que Guillaume en a parlé tantôt, ça va revenir. Aujourd'hui, les mains, bon, c'est quand même des organes par lesquels on fait plein de choses. Et que ce soit les mains d'un voleur aussi, que ce soit un criminel dont on prélève les organes, ça, c'était promis à un grand futur dans la fiction. Et donc, c'est sûr que le but là-dedans, c'est purement humoristique, là. C'est pas, il y a pas vraiment, même si c'est un conte, la leçon est pas si forte que ça, mais il y a comme des prémices.
Je me demandais quelle moralité on devait tirer de ça.
Tu sais, ça tient en mille mots, cette petite affaire-là. Puis il y a pas vraiment, bon, à la fin, les enfants devraient faire ceci ou cela. Ça les concerne pas directement non plus. Mais c'est peut-être, on pourrait dire après coup, c'est comme une science un peu délirante, là. Qui cherche absolument à rien régler, mais qui part dans des délires créatifs. Il y a aussi le fait qu'il y ait des membres d'animaux qui ont été prélevés. Ça, déjà, ça annonce un petit peu les hybrides hommes-animaux de Moreau, par exemple, H.G. Wells et compagnie. Des espèces d'hybrides un petit peu bizarres. Donc, ça, c'est pas connu. L'autre est connu, par exemple, parce que je veux prendre quand même des fictions célèbres. « Les mains d'Orlac » de Maurice Renard. Donc, c'est un roman qui est paru en 1920, qui est quand même une œuvre phare, là, pour ce thème-là, qui a une grosse influence sur l'expressionnisme allemand, entre autres. Il y a eu une adaptation en 21. Puis même les studios Universal aussi ont fait quelque chose qui s'appelle Mad Love, avec Peter Lorre en 1935.
Oui.
Ouais, je sais pas si c'est
ça. Il est magnifique, ce film-là.
C'est magnifique, mais il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptations. Puis ça, c'est des adaptations plus directes, mais en même temps, c'est un motif qui est là beaucoup. Donc, c'est un pianiste. Le fait que ce soit un artiste aussi, c'est quand même intéressant. Qui, après un accident, perd ses mains, se fait greffer, bien sûr, les mains d'un criminel. C'est toujours mieux comme ça. Et que là, il va y avoir des crimes qui vont être commis dans le roman, et on va retrouver ses empreintes. Et lui, il va comme être à la fois persuadé de l'avoir fait, parce que là, il est mis devant son fait, mais il n'a pas un souvenir précis de ça. Et là, puis là, je m'excuse de brûler des poches, là, je le ferai pas à chaque fois, mais là, on va apprendre quelque chose qui est assez révélateur, je pense, pour la suite du thème aussi. C'est que c'est quelqu'un, une espèce de bandit, génial, qui a fait faire des moules de ses mains à ce criminel-là. Ce qui veut faire du chantage auprès d'Orlac, c'est quelqu'un qui est célèbre, qui est fortuné, et qui a commis les crimes lui-même. Donc, c'est pas Orlac qui les a fait. On se fait pointer vers la possibilité que c'est le greffon qui est jeté à travers lui. Quand finalement, c'est pas fondé, c'est juste un fantasme, finalement. Il a pensé que c'est ça parce qu'on retrouve les empreintes là-bas. Donc ça, il y a des observateurs, des lecteurs, David Le Breton, entre autres, qui s'est intéressé beaucoup au bon rapport au corps, mais qui voyait justement dans le fantasme que le greffon prenne la relève et agisse de son plein gré, quelque chose d'intéressant, parce que dans la science, je veux dire, c'est pas un phénomène qui est reconnu scientifiquement. C'est la mémoire cellulaire, par exemple, c'est pas quelque chose qui est vraiment accepté. Mais même les médecins sont forcés de dire que, écoute, psychologiquement, il y en a qui pensent quand même qu'ils agissent pas complètement librement. Mm-hmm. C'est ça que le roman, même en 1920, alors que c'est quand même fait partie d'une science-fiction, tu sais, qui est plus triomphante, on s'attend à ce que l'impossible soit montré, alors que là, non, c'est sous forme d'un fantasme que c'est montré. Donc, il y en a qui pourraient dire, franchement, il aurait pu faire le pas supplémentaire, mais non, c'est un entre-deux quand même qui est assez intéressant pour moi. Puis c'est sûr, là, le fait que ce soit des mains aussi, que ce soit un artiste. Tu sais, je revenais tantôt, mais des fois, il y a des artistes qui vont profiter de ce genre de greffe-là dans la fiction. Tu sais, qui vont dire, écoute, là, je peux enfin agir comme j'ai jamais pu le faire. Mm-hmm. Alors que souvent, on voit le greffon rebelle comme quelque chose qui te pousse à faire les pires choses. T'en deviens prisonnier ou presque. Il y a des artistes qui vont... Ça me fait toujours penser aux surréalistes un peu, là, qui veulent agir, plus créer plus librement, puis bon, endormir leur raison. Puis on dirait qu'il y a des personnages qui font ça. Une autre citation que je voudrais aborder, puis là, n'hésitez pas à me... couper mon panégyrique, là. Ne soyez pas gêné. Un roman du tandem d'auteurs de romans policiers, Boileau et Narcejac, des Français qui ont fait, entre autres, des romans qui ont été adaptés au cinéma, Les Diaboliques de Clouzot, Vertigo d'Hitchcock, et ils ont co-écrit aussi Les yeux sans visage de Frangieux. Ouais, ça, pour moi, c'est pour différentes raisons. Puis c'est un autre film qui porte sur la greffe de visage qui est très, très important, dont je parlerai pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas question de greffon rebelle là-dedans. Mais là-dedans, ce qu'on propose, donc, Aimons-tout est un homme, c'est sûr qu'il y a une petite référence symbolique à travers ça, mais c'est une greffe intégrale. C'est pas juste les mains d'un criminel, c'est le corps au complet. En tout cas, les principaux organes, les bras, les jambes, la tête même. On va greffer ça à 7 personnes, puis ce qui est drôle dans le roman, c'est qu'ils vont créer une espèce de petit groupe secret à travers ça. C'est des espèces de privilégiés. Ils vont s'appeler le groupe des 7. Puis le narrateur, c'est comme un gars qui est pas greffé, mais qui est fasciné par ça. C'est qu'il a quasiment le goût de participer à toute cette affaire-là. On va apprendre tranquillement que les gens commencent à agir selon le greffon et non pas selon leur propre but. Puis dans la dernière partie, c'est drôle parce que c'est comme une machine qui s'inverse complètement. Au début, on sème les organes à tout vent. Et là, après ça, on se rend compte que le gars à qui on a greffé la tête de ce criminel-là, il a le goût de ravoir ses organes. Finalement. Ça a commencé une greffe intégrale supervisée par la Défense nationale, puis tout ça. Mais là, le gars, il se dit, écoute, finalement, je pense que je vais aller reprendre. Fait que t'as comme une machine qui remonte.
Ça fait penser à toutes ces œuvres de fiction. Et les dessins animés japonais nous en ont donné beaucoup de ces robots qui se mélangent ensemble pour n'en faire qu'un seul. Et toutes ces fictions-là se terminent par... Le résultat final assemblé est plus fort que les parties et il est même nécessaire à gagner. Donc, pourquoi on saute pas directement à l'assemblage immédiat.
Justement, tu dis entre le début où il était avant, où il perd ses organes, et à la fin, bon, c'est ce qui se passe, c'est surtout intéressant sur le plan de l'intrigue et sur le plan de l'utilité. On se dit, bon, qu'est-ce qu'il gagne au juste à travers ça? Puis ça, c'est un roman, le titre anglais de ce roman-là, c'est drôle, c'est « Choice Cuts ». C'est un peu plus la boucherie, tu sais.
Oui.
Autre chose.
Coupe de choix.
Ben ouais, coupe de choix. Mais il est adapté. Il y a une adaptation cinématographique qui est un pur film de série B que moi j'aime beaucoup. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ici, qui ont entendu parler. C'est Body Parts. qui a été fait en 91.
Oh, ça oui, fait longtemps.
Oui, ouais, il y a Brad Dourif là-dedans, qui est un pro de la série B, la voix de Chucky.
Un acteur exceptionnel.
Qui est excellent là-dedans, dans un rôle clé d'ailleurs. Donc, c'est une adaptation qui est assez libre quand même. Il n'y a pas le groupe des sept, il y en a juste quelques-uns. Il y a comme les deux qui héritent des bras du criminel, des jambes, entre autres. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le personnage principal, c'est pas quelqu'un qui est extérieur à la chose, c'est quelqu'un qui est greffé, et qui on greffe un bras, et c'est un psychiatre aussi. Donc, qui est assez intéressé par l'inconscient, puis ce qui échappe au contrôle, ou qui essaie de mettre ça en lumière chez ses patients, et là, lui-même, éventuellement, commence à se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent pas bien. Puis c'est une présence qui ressent au début physiquement agréable. Il lance un ballon à une force extraordinaire. Il est performant au lit. Il était très joyeux. Et là, éventuellement...
Il est performant au lit à cause de son bras.
Ah oui, oui, c'est OK. On nous montre pas exactement
mais
quand
Jim,
même.
Mais Jim, tu ne te sers pas de tes bras?
Oui, 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 mais... un bras, tu sais, c'est... Mais...
Non, mais bon.
Tout ça pour... Je voulais pas t'interrompre, ça a l'air absolument fascinant ton truc, mais il y a eu un petit moment de comme...
Oui.
Comment que...
Non, right. Non mais ça, on voit, c'est supposé. Là,
oui, oui.
Dans la suggestion, alors que le reste, on le suggère pas du tout. On
une
le montre.
Poigne, une poigne plus ferme, un doigté plus fin.
Mais
absolument,
c'est ça. Oui, oui, oui.
Une poigne de criminel. Donc, on continue. Excusez-moi. Donc, à un moment donné, il donne un cours, et là, il commence à avoir les visions. Là, on est dans le thème des visions un peu... du criminel. Et là, il commence à ressentir ça comme un poids. Mais ce qui est super intéressant avec Brad Dourif, justement, c'est que là-dedans, il joue un peintre. Il y a un artiste dans le roman original, mais on le suit pas vraiment. On dirait que c'est pas, il est pas dans les cas les plus intéressants pour les romanciers. Mais là, l'artiste est intéressant parce que lui, il se fait greffer l'autre bras. Et là, à un moment donné, le psychiatre, c'est sûr qu'il cherche un peu dans quel projet on l'insérait. Il comprend pas trop au début. Il découvre que, bon, il y a l'organe d'un criminel, qu'on a donné ses organes aussi à d'autres gens. Et il entre dans l'atelier de ce gars-là, puis il voit des toiles, justement, expressionnistes partout. Flayées, sanglantes, horrifiques. Puis là, il essaie d'expliquer au gars, écoute, là, on est en difficulté. Lui, il ressent la présence comme quelque chose de lourd. Fait qu'il veut en libérer ce gars-là. Puis l'autre, il dit, écoute, ça fait 25 ans que je fais des peintures à peine digne d'être accroché dans une chambre d'hôtel. Là, pour maintenant, j'ai vraiment l'impression que je crée comme j'ai toujours voulu créer. Ça a libéré en moi une sorte... Là, il ne contrôle plus cette création-là, puis il trippe avec ça. Là. Il n'est plus pris dans ce contrôle-là. Puis ça, c'est vraiment comme entre un psychiatre et un peintre. Là, dans le roman, ce genre de choses-là n'est pas plus présente qu'il faut. Mais ça, ce que je donnais comme exemple, les surréalistes tantôt, ça me fait beaucoup penser à ça. L'espèce de soif d'une création plus libre. Ouais, quelque chose de plus... pulsionnel qui vient des tripes vraiment. Puis lui, il a trouvé ce moyen-là par la force des choses. Il a eu l'accident, il s'est fait greffer ça.
C'est intéressant parce que souvent, on essaie de montrer la greffe comme une espèce de jeu à somme nulle où on regagne un organe, mais on perd une partie de notre volonté ou une partie de soi. Et là, tu offres un exemple de quelqu'un qui a tout gagné.
Absolument. Non, c'est ça. C'est souvent question comme de restaurer quelque chose. C'est vraiment... C'est la première fonction, en tout cas, des greffes réelles habituellement. Ouais. C'est sûr. Bon, il y a la chirurgie esthétique, des choses comme ça, là, on ouvrira... C'est autre chose, on essaie d'améliorer, en tout cas. Mais généralement, sur le plan purement médical, on dit, là, il y a un problème, et là, on va pas amener quelque chose qui est parfait, mais on va au moins régler la difficulté, ou atténuer, par exemple, avec un visage retravaillé. Alors que, mais là où il y a une distance, souvent, puis là, j'ouvre un peu autre chose, mais les savants fous, eux, vont justement s'éloigner de ce motif-là. C'est-à-dire, si on prend Moreau, par exemple, là, c'est plus vraiment de régler un problème, c'est d'assouvir. Ça rejoint, dans le fond, ce que je disais aussi avec la greffe créative, là, qui libère des pulsions. Mais chez les savants fous, des fois, c'est pas eux qui la subissent, mais ils la font subir aux autres. Puis là, je veux dire, les projets des savants fous, ça devient...
Ça peut jouer à Dieu.
Absolument, oui, c'est sûr. Puis ça, avec Frankenstein aussi, le Prométhée moderne, je veux dire, là, c'est la volonté de créer quelque chose, de faire ce qui n'a jamais été fait jusqu'ici.
Puis en même temps, c'est ça, tu dis que c'est pas les savants fous, le projet n'est pas particulièrement de régler le problème, mais étrangement, des personnes comme le vilain Batman, Ra's al Ghul, qui, lui, argumente pour un eugénisme et pour un transhumain qui va survivre à tout ce qui est en train de se vivre, qui va être capable de... Pardon. Il veut créer des humains qui vont être capables de survivre dans le prochain écosystème, post-pollution, et ainsi de suite. Fait que oui, il y a peut-être dans la greffe la possibilité de survivre à tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on impose sur la planète. Moreau avait ça aussi, en quelque sorte.
C'est vrai.
Dire, l'humain tel, tu sais, le génome nous a amené jusqu'ici, mais on ne pourra pas, on va trépasser ici. Ça fait que là, on va faire des Monsieur Chats, puis peut-être que les Monsieur Chats vont être mieux.
Ben, ouais, non, j'ai une idée.
Je cherche son nom, là, mais je Marc Dacascon.
Puis c'est... Mais ça me faisait penser aussi, là, tu parlais de Cœur désirable tantôt. C'est vrai que pour moi aussi, c'est comme un livre qui participe d'un tournant réaliste. Mmh. Surtout que ce livre-là, comme ça breuve en même temps de l'actualité avec un vrai chirurgien italien. Mais même.
Juste... Le personnage est vrai?
Oui.
Oui, oui.
Ben, ah, c'est mais ça que tu mentionnais tantôt.
Mais qui se fait appeler Cadavero au lieu de Canavero. Ouais,
c'est
le jeu de mots.
Mais c'est ça, le jeu de mots se fait tout seul. On lit une manchette, on est comme. Pardon.
Il pense tout de
suite. Le docteur Cadavero, puis là, souvent en haut de la montagne avec l'éclair.
Habillé en baron samedi. Et puis voilà.
C'est ça. Ouais, ouais. Mais encore désirable, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a comme un paquet de dédoublements, de jeux de double. Même le personnage principal, avant d'être greffé, il y a un pseudonyme. Il joue déjà sur la double identité qui, là, va être complètement accentuée avec la greffe. Mais même dans ce roman-là, moi, là, j'ai juste pris une couple de notes, j'avais fait un compte-rendu plus long là-dessus, mais il y a encore des éléments, justement, du greffon rebelle qui est habituellement plutôt associé, tu sais, à la veine fantastique, horrifique. Tu sais, là, c'est une greffe de tête qu'il y a dans le roman de Hubert Haddad, qui est paru il n'y a pas trop longtemps, mais il y a comme... On reconnaît certains motifs. Il y a des impressions de déjà-vu, entre autres. Il ne sait plus s'il pense par lui-même. Mais conduit son auto, puis il a l'impression que c'est avec quatre mains.
L'impulsion sexuelle dont tu parlais tantôt, elle est là.
Absolument.
Est là. Même s'il est détaché un peu de son corps quand il réfléchit, là. Mm-hmm. Il ne sait pas trop, mais l'impulsion sexuelle est absolument là, plus qu'avant, à cause du corps qui pas le sien, mais qui est le sien.
Mais est-ce que c'est... C'est l'ajout d'une volonté ou c'est la multiplication d'une volonté? Sens que est-ce que c'est un corps qui se voit imposer l'énergie sexuelle à quelqu'un d'autre ou on a deux énergies sexuelles mélangées ensemble à ce moment-là?
Peut-être parce que c'est corps désirant, c'est quand même pas pour rien. Il se fait greffer un corps jeune, musclé, svelte, et ainsi de suite. Fait que oui, il y a peut-être aussi un regard sur lui-même de comme... Regarde la version augmentée de moi.
Ce qui est spécial aussi, c'est un corps sur lequel il y a des signes disséminés. Il y a un tatouage va comme devenir une espèce d'élément important juste pour commencer à comprendre c'était qui ce gars-là. Il va revenir un peu dans le monde. Mais c'est comme le corps à lire. Ça, c'est le genre de thème dans la sociologie du corps. J'ai David Le Breton encore qui est super présent. Mais ça, dans le corps désirable, je trouvais qu'il y a comme un élément justement du corps à se réapproprier, à comprendre autrement. Ça, le lien avec les greffes réelles, je pense qu'il est assez simple à faire en même temps. C'est comme un double rapport au fantastique puis à quelque chose de réaliste en même temps.
Ça ouvre l'imaginaire.
Ben
en
oui,
fait, là,
exactement. Parce que c'est ça, j'avais comme un petit truc par rapport au body horror puis voir comment l'entrée technologique et tout, mais t'as tellement bien complété ça que je vais laisser les auditeurs faire cette étape-là, cette décennie-là où on avait très peur d'avoir des cassettes VHS qui avec des pulsions cardiaques qui nous attaqueraient, là, puis des télés qui jouissent, là, puis on va aller directement à Guillaume qui...
Cette image de la télévision avec les... Ah, mon Dieu, c'est quand même... Ça m'a resté longtemps. Moi, je vous propose en fait un détour dans le jeu vidéo et très précisément une de ces sagas les plus généreuses, les plus omniprésentes, Metal Gear Solid. Pour ceux qui ne connaissent pas Metal Gear Solid, c'est une franchise de jeux vidéo qui a ses origines jusque dans les années 80, fin des années 80, sur des ordinateurs personnels japonais et qui, depuis, a eu... des itérations assez assez fréquentes, donc sur la Nintendo, sur la PlayStation, et ensuite, bon, PlayStation 2, 3 et 4. Le plus récent jeu, Metal Gear Solid 5, est sorti il y a quelques semaines, en fait. Donc, oui. Et il y a déjà matériel dans le 5, mais je vais remonter à quelques titres auparavant. Et là, je vais, s'il y a des gens qui nous écoutent à la maison et qui savent, déjà, qui connaissent déjà Metal Gear, pardonnez-moi de faire la boucherie à travers le scénario complet, qui est vraiment complexe. Le scénario est... c'est comme un enfant de 6 ans qui t'invente une histoire, mais il y a personne qui l'arrête. Puis à un moment donné, toi, faut que tu composes avec tout ça. Puis quand tu veux faire une suite à cette histoire-là, faut que tu te rappelles tout ce qui a été dit. En tout cas, c'est... Ouais. Chaque suite à Metal Gear, on se demande comment il fait pour aller chercher un coin qui n'est pas touché, puis juste aller creuser une histoire là-dedans. Et on va donc en avoir une idée à travers la saga de Liquid Ocelot, qui est un personnage Ils ont tous des noms presque d'animaux.
Mais il est malade, ce nom-là. Là.
Le personnage principal de la série s'appelle Solid Snake. Et non, on fera pas de... Il y a des blagues évidentes à faire. Mais c'est ça. Donc, Solid Snake est un soldat qui est envoyé en mission à travers le monde. Bon, puis c'est ça. Et il a des... génétiquement, ça, il n'est pas lui-même. C'est un clone d'un soldat qui est plus important qui est arrivé avant lui. Et il a un frère qui est en fait son clone et qui s'appelle Liquid Snake.
Donc, il y a solide et liquide.
Exact.
Magnifique.
Et que ce sont littéralement les, c'est le même homme, en fait, c'est le même visage et tout ça. Ils ont des traits légèrement différents, la couleur des cheveux, entre autres, le teint de peau et tout. Mais bon, et, à travers ça, il y a Revolver Ocelot également, qui est un autre personnage qui est un adversaire de Solid Snake. À travers les jeux, Revolver Ocelot apparaît souvent. On le voit très jeune dans les jeux qui se passent dans les années 60, 70, et on le voit plus vieux, éventuellement, quand on arrive dans les années 2000. Dans Metal Gear Solid, le premier jeu sur la PlayStation 1, donc il y a deux séries, Metal Gear et Metal Gear Solid. Donc je vais parler uniquement de Metal Gear Solid comme série parallèle, en fait. Et dans Metal Gear Solid, il y a à un moment donné un cyber ninja, bien sûr, qui coupe, qui va couper l'avant-bras droit de Revolver Ocelot. Revolver Ocelot, c'était sa fierté, ses bras, puisqu'il, grand fan de Western Spaghetti, aimait bien manipuler les revolvers et bon, tout ça. Et donc, c'était un peu un marksman, un sharpshooter, comme on pourrait dire. Et la perte de son bras est quand même quelque chose d'assez important.
C'est assez tragique dans son cas.
Éventuellement, bon, Liquid Snake, qui est l'antagoniste principal du jeu Metal Gear Solid, sera vaincu par Solid Snake. Et à ce moment-là, on ne le sait pas, parce qu'on va l'apprendre dans les suites, le corps de Liquid Snake est récupéré par le méchant Solidus, qui est le président des États-Unis. J'avais quelque chose que j'aimais. J'ai toujours aimé ce détail. Et donc, dans Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, on revoit Revolver Ocelot, et Revolver Ocelot a, à ce moment-là, deux bras. Donc, d'où provient son nouveau bras? C'est le bras de Liquid Snake, qui a été récupéré et qui a été greffé sur Revolver Ocelot. Et à ce moment-là, et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans l'histoire, on s'est révélé un peu plus tard que Revolver Ocelot a été victime d'un lavage de cerveau. Et c'est là un peu la nuance vraiment intéressante qui va elle-même être nuancée plus tard. C'est que ce qu'on propose, c'est que la greffe n'a pas... C'est pas la greffe qui a donné une nouvelle personnalité à l'intérieur de Revolver Ocelot. C'est un brainwashing, finalement, qui a été fait et puis qui a été imposé. Et on a essayé de lui faire croire à Revolver Ocelot qu'il était maintenant, il y avait maintenant une autre personne en lui à cause du bras, mais ce n'était pas le cas. Et c'était, l'idée, c'était de pouvoir insérer un agent dormeur finalement dans Revolver Ocelot pour qu'ensuite Liquid Snake ressorte de la mort et ait sa propre volonté pour accomplir une partie du plan.
C'est de la gonzo science-fiction.
On est loin, là. On est très, très loin. Et là, semblerait-il qu'on a aidé Revolver Ocelot à avoir cette personnalité double à travers, évidemment, l'hypnose, les drogues, la psychothérapie et les nanomachines. Donc, vraiment, il y a beaucoup de techniques employées pour qu'on puisse convaincre un individu qu'il est en fait deux individus en un. Et lorsque Solid Snake va revenir pour combattre cette nouvelle menace, le bras de Revolver Ocelot, de Liquid Snake, va réveiller, donc c'est comme un peu le trigger, la gâchette pour réveiller la deuxième personnalité intérieure, et on va découvrir en fait la personnalité de Liquid Ocelot, qui est le mélange entre les deux, puisque Liquid Snake et Revolver Ocelot ont en fait certains objectifs en commun, et lorsque ces objectifs-là se rencontrent, c'est Liquid Ocelot qui parle. Donc on aurait trois personnalités à l'intérieur d'un greffé, finalement, en fait. Et ça, c'est intéressant. Et on va même un peu plus loin où, à un moment donné, dans le jeu, le bras de Liquid Snake, il y a encore son ADN à l'intérieur, et ce qui fait que lorsque vient le temps de mettre fin à un programme génétique de soldats, les Sons of the Patriot, ça prend l'ADN de Liquid Snake qui est mort, donc, mais le fait qu'il a son bras fait en sorte qu'il peut sauver, donc vraiment, Revolver Ocelot à ce moment-là n'est même pas uniquement lui-même, mais il est physiquement, évidemment, il a un bras, mais il peut faire agir un peu, au-delà de sa volonté, mais vraiment la génétique même du bras est utile à finalement sauver le monde, en quelque sorte. On commence à creuser loin dans les dans le complexe. Et tout le long du jeu Metal Gear Solid 2, il y a évidemment des personnalités qui, c'est ça, qui se promènent entre Liquid Ocelot, Revolver Ocelot, qui se on et off un peu. Et la solution que l'on va trouver pour régler cette histoire-là, c'est de le lui enlever, ce bras-là, évidemment, et de le remplacer par un bras cybernétique. Et à la quand on le voit plus tard dans Metal Gear Solid 4, là, on voit qu'il est robotisé, puis il y a plus le même problème. Et ce qu'on explique à ce moment-là, c'est que ça lui a permis d'obtenir une tranquillité d'esprit, de ne plus avoir ce bras-là, de le perdre à nouveau, finalement, pour ensuite ravoir sa propre personnalité. C'est quand même c'est intéressant. Et là, à partir de là, il y a beaucoup de réflexions, je pense, qu'on peut tirer de ça. Ce sont tous des soldats. Tous les personnages à qui je viens de parler, ce sont tous des agents, des soldats. Ce sont des gens qui agissent avec leurs mains. On parle d'un jeu vidéo. La seule manière, du moins jusqu'à une nouvelle technologie qui s'en vient et qui sont déjà là, mais à l'époque, la seule manière d'interagir avec un jeu vidéo, c'était avec ses propres mains, en tenant la manette, tant que telle. Donc, si on enlève, si on disait, ben, tu es un joueur, une de tes mains ne t'appartient plus, laquelle? Est-ce que c'est la main qui contrôle le mouvement, la main qui contrôle les gestes?
Mais ça, parce qu'on sait que la franchise de Metal Gear a à quelques reprises voulu jouer des tours avec le joueur.
Absolument.
Psycho Mantis, je pense, qui était capable de faire vibrer une manette à distance en faisant croire qu'il y a des pouvoirs.
Il y a une séquence, et ça peut intéresser les non-initiés. Dans Metal Gear Solid 1, il y a une séquence de torture où on demande au joueur d'appuyer sur un bouton à répétition pour ne pas craquer sous la torture, pour garder une espèce de tensiomètre élevé, là. Et une fois que cette séquence-là est terminée, on demande, il y a quelqu'un qui parle à la radio, là, avec le héros, et qui lui dit, mets la manette sur ton épaule, et on va la faire vibrer, on va te faire un massage.
Oh.
Donc, il y a un peu de ça. Donc, on voit l'intention de la série d'aller briser le quatrième mur et d'aller chercher ça. Et je pense pas que ce soit innocent que l'on parle, effectivement, de mains. À ce moment-là, les mains du joueur.
Mais est-ce
que.
Power Glove ou le.
Oui, est-ce qu'il y a des moments, par exemple? Y a-t-il un moment où il y a un des joysticks qui ne répond pas à cause qu'on n'a plus de mains? Il me semble que ça serait une opportunité parfaite pour le faire.
Pas dans celui-là. Évidemment, Psycho Mantis inversait les contrôles.
Ah, c'est ça.
Et puis, il fallait brancher sa manette dans l'autre port, le port numéro 2, pour pouvoir le vaincre. À ce moment-là, Psycho Mantis se disait, mais je ne peux plus lire tes mouvements. Comment cela se fait-il? Donc, c'était, voilà.
Tellement bon.
Un paquet d'idées comme ça. Mais, dans ce cas-ci, et je trouve ça intéressant que, lorsque, dans le fond, Liquid Ocelot est vaincu à la fin de Metal Gear Solid 2, en tout cas, il revient éventuellement, mais c'est pas tout de même. Donc, lorsqu'il est vaincu, ses dernières paroles, dans le fond, c'est Revolver Ocelot qui revient et qui finit par dire quelque chose. Et moi, je voyais ça comme il y a une rédemption qui est nécessaire au greffé, en fait. Lorsque le greffé semble il est sur le bord de mourir, sur le seuil de la mort, tout d'un coup, cette personnalité-là qui a pris possession de lui à travers la greffe s'éteint, s'estompe, elle meurt avant lui. Peut-être est-ce que le pourcentage de corps original ou pas rentre en ligne de compte, mais il y a vraiment cette volonté à punir le greffon avant de finalement offrir une rédemption au greffé dans les fictions d'action, finalement.
Parce qu'il y a une transgression biologique.
Il y a, oui, c'est ça.
C'est peut-être ça. C'est
peut-être.
Ben encore comme Myriam me disait, parce qu'il y a quelqu'un qui a joué Dieu. C'est encore un... C'est, tu dois être puni pour... Oui, c'est ça, il y a un châtiment... karmique.
Oui, c'est ça. Ce serait ça, un retour. Ben, une espèce de, comme un dernier moment où le corps t'appartient entièrement avant de quitter. Je crois qu'il y a une arche à voir à travers ça. Et, faut pas sous-estimer aussi le fait que dans Metal Gear Solid 4, lorsque, Revolver Ocelot revient avec un bras cybernétique, c'est la réponse. La réponse n'est pas la greffe dans Metal Gear. La réponse va donc être d'avoir une main robotisée.
Oui, c'est ça. Mais oui, parce qu'elle n'a pas de personnalité.
Parce qu'elle n'a pas de personnalité. Elle vient de nulle part, cette main-là, finalement. On l'a créée toute pièce. Et c'est également ce qui arrive dans Metal Gear Solid 5, qui est sorti récemment. Le 5 se passe quelques années avant. Donc, dans la chronologie, Metal Gear Solid 4 est le plus avancé, le plus loin dans la chronologie complète diégétique, finalement. Mm-hmm. Et Metal Gear 5 se passe dans les années 80. Et malgré tout, jetons à la poubelle la logique ou la chronologie de la technologie, genre, dans Metal Gear Solid 5, le héros a un bras cybernétique qui peut lancer également, en fait. Donc, vraiment projeter
son... Comme le fulgure au point,
le Goldorak. En effet. Donc, il y a vraiment un motif de la main... on remarque beaucoup que lorsque Liquid Ocelot se manifeste à l'intérieur de Revolver, c'est sa main droite qui se lève et qui fait un point comme ça et qui lève. Là, je fais en studio, je le fais, mais on l'imagine très bien. Il y a cette espèce de geste presque fasciste, un militaire à tout le moins en tout cas. Donc le signe d'une main, c'est le salut. Et vraiment, donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut voyager comme personnalité à travers un simple membre qui n'est pas le tien?
C'est presque la prothèse du Dr. Strangelove.
Oui,
ben oui.
Exactement.
Mais c'est là où je trouve que c'est très intéressant, où vos interventions sont très stimulantes, c'est cette idée-là que on dirait que dans le fantastique puis dans l'imaginaire, le membre greffé, puis là, ça va être très cru, pas cru comme langage, mais il n'y a pas d'expression, c'est essentiellement comme une clé USB de la personnalité. Et qu'on télécharge vous voyez, le langage est assez... On peut télécharger les personnalités à travers les membres actuels. C'est comme l'inverse du membre fantôme. L'idée, quand on coupe un membre, il reste quelque chose qui est neurologique, là, on l'a déterminé. Oui. Mais que dans le membre, il y a aussi un membre fantôme qui viendra se greffer au fantôme de l'individu. Puis ça, c'est essentiellement de... C'est en vous écoutant parler que ça m'a frappé, là. C'est essentiellement de traiter l'âme ou la personnalité, ou peu importe comment est-ce que vous voulez appeler ça, l'énergie humaine, comme un hologramme. Mm-hmm. L'idée que dans l'hologramme existe... l'image est complète dans toutes les parties. Mm-hmm. On peut télécharger, vous voyez l'expression? Mm-hmm. J'en ai pas d'autre, qu'est-ce que vous voulez dire? Comme pas le choix, là. C'est clé USB, puis c'est téléchargé. Mais, bon.
Mais c'est une idée qui est étrangement rassurante pour la personne pour le greffon.
Ben, sauf dans Metal Gear, parce que là, lui, il est rendu, il est le réceptacle de tellement d'âmes que là, mets-moi quelque chose de robotique, ça n'a pas d'âme, il y a trop de bruit dans ma tête. Là.
Exact.
Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, avec la greffe, on pourrait, j'ai pas le choix de faire une filiation, direct avec le personnage de Curzon Dax dans Star Trek Deep Space Nine, qui est une race extraterrestre qu'un appendice reptilien est inséré dans la cavité poitrinaire des personnages, et toutes les mémoires sont stockées dans cette espèce de verre cosmique-là. Et seule la caste la plus élevée ou la plus érudite de cette race-là peut recevoir un verre. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Jadzia Dax qui porte en elle le verre de Curzon, et elle a tous les mémoires, et elle a tous les souvenirs, elle a toute l'expérience de cet homme-là. Puis je pense qu'elle a ce greffé-là, 9 générations à elle. Le fantastique et la science-fiction, tel que vous le décrivez, vous deux, c'est un peu ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que, je pourrais mettre un doigt de quelqu'un, puis, tu sais, je pourrais couper le doigt de quelqu'un, Yakuza style, là, vraiment, dans la...
Ouais, c'est ça, c'est l'extension de la volonté.
En tout cas,
dans le cas de Metal Gear, en tout cas, c'est la mission de Liquid Snake. Lorsqu'on pense, quand on a abattu Liquid Snake à la fin de Metal Gear Solid 1, non, il va revenir. Et puis sa mission, finalement, son objectif est un peu plus près d'arriver à la fin de Metal Gear 2 parce qu'il a réussi à accomplir des choses à l'insu de Revolver. Donc, c'est ça, là. Il y a une mission beyond the grave.
Oui, exactement. je trouve ça très intéressant, mais parce que, la greffe, c'est quelque chose de très physique, mais on s'en sert en tant qu'exemple, pour vouloir dire quelque chose sur l'âme. Ouais. Encore sur l'âme, sur l'énergie, sur l'aura.
Déjà, tu parles de mémoire, mais des greffes de mémoire aussi, c'est un motif aussi qui revient beaucoup.
Oui. Puis MK Ultra, il faut le mentionner. Wow. Mm-hmm. Parce qu'il y a véritablement des incidences. MK Ultra, là, rapidement, c'est le projet régagnien dystopique totalitaire où on mettait des mémoires et des commandes dans les gens. On dit que Mark David Chapman, l'assassin de John Lennon, aurait été un sujet d'MKUltra, puis que c'est dans Catcher in the Rye qu'il y avait le call sign. Le déclic qui lui donnait l'ordre, bon, tout ça provient clairement de Manchurian Candidate. Ce gros classique-là là, où on avait très peur de pouvoir, comme tu dis, Philippe, faire des greffes de mémoire. Mais ça, c'est là où l'imaginaire est la réalité, parce que on voit des dossiers politiques commencent de plus en plus à errer jusqu'à la théorie de la conspiration.
Et on parlait du médecin italien, en fait, là, monsieur Canavero.
Canavero.
Ouais. Et qui, en fait, Metal Gear Solid 5, qui est sorti récemment, Monsieur Canavero est encore en réflexion, je crois. J'en ai pas entendu parler encore dans les médias. En réflexion, s'il va poursuivre ou non la compagnie Konami. Parce que dans le jeu s'ouvre Metal Gear Solid 5 avec le personnage de Solid Snake, mais en tout cas, un autre Solid Snake, Venom Snake en tout cas, qui se réveille dans un lit d'hôpital et qui lui manque un bras. Et donc, il y a un médecin qui vient lui parler de ce qui va se passer, puis de... On va te greffer quelque chose, tu vas avoir un bras. Ce médecin-là est modélisé selon le visage de M. Canavero.
Oh. Oh my God. Okay.
Et lui n'était pas au courant. Le vrai docteur n'était pas au courant que cette modélisation avait eu lieu. Donc, évidemment, je présume que matériel source, on récupère du matériel source, on fait le jour après jour d'un studio de développement, donc on prend un personnage connu, on le modélise un petit peu, il va ressembler à ça. Mais non, c'est on voit les référents. Et Metal Gear, le studio de développement de Metal Gear est connu pour ses annonces ou ses jeux métatextuels dans la vraie vie, puis de ci, puis de ça. Là, est-ce que ce qui est vrai, ce qui est pas vrai? Et là, tout le monde s'est demandé, est-ce que c'est... Lorsque l'annonce de la greffe de tête est arrivée, dans le milieu du jeu, le monde se sont dit, c'est une annonce pour Metal Gear Solid 5. C'est de la promotion.
Ouais, c'est ça.
Moi, je rigole là, ici dans mon début de barbe là, parce que c'est drôle que ce monsieur-là, il est frustré parce qu'ils ont greffé son visage sur un jeu vidéo.
Et ben, j'en arrivais à ça. Parce qu'on lui a pris sa tête.
C'est ça.
Pour le mettre dans un jeu, en fait.
Il veut faire une greffe de tête.
C'est
très drôle. Ouais, on va passer aux terreurs actuelles.
Aux terreurs.
Non, parce que oui, on est resté assez soft puis cute à dire ben dans ces livres-là peut-être, mais Yann, tu t'es donné comme mission de vraiment un peu inquiétante.
Ben en fait, c'est juste que cette émission-là, je vous le disais tantôt, ça tombe bien cette semaine parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces en fait concernant des nouvelles avancées de la greffe. On va juste prendre lundi. Lundi dernier, il y avait une conférence de presse du NYU Langone. Ça, c'est le New York University Medical Center Langone, qui doit être pour le nom de quelqu'un, je sais pas. Qui avait une conférence de presse qui était live, qu'on pouvait voir, puis on peut consulter encore la vidéo qui est franchement fascinante. Et c'était autour des procédures d'une greffe faciale qui a eu lieu en août dernier. Sur M. Patrick Ardizen, je pense que je prononce bien son nom, ce que j'espère. Et cet homme-là, c'est un monsieur de 31 ans qui a 5 enfants et qui est un pompier volontaire et qui a été dans un incendie, essayer de sauver quelqu'un. Et en fait, son masque a fondu sur son visage. Il a eu le réflexe, dans sa malchance, de couvrir ses yeux, donc il a gardé la vue. Donc, une chance dans sa malchance, mais bon, on va voir. Mais à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, il n'y avait plus du tout de visage, les oreilles non plus. Et ils ont reconstruit un visage, grosso modo, avec de sa peau, entre autres de ses cuisses, de ses jambes. Et ce centre médical-là sont spécialisés dans la reconstruction faciale. Et donc, ils ont eu une bourse de recherche. Et ce Patrick-là a pu faire partie de cette bourse-là et se faire proposer une greffe faciale totale. C'est la première greffe faciale totale aussi avancée. On se rappelle, par exemple, la première au monde, là, c'était en 2005. C'est Isabelle Dinoir, c'est une Française qui avait une greffe partielle, une greffe faciale partielle. Elle, c'est une femme qui avait fait une tentative de suicide avec des pilules. Elle s'est endormie au lieu de mourir, en fait, et son chien essayait de la réveiller. Je mets des guillemets. Il a mangé une partie de son visage. Non, les photos sont assez atroces. Oui, tu te caches la face, là. Ben, c'est le cas de le dire. Oui, c'est ça. Puis, ils lui ont proposé une greffe partielle, c'est-à-dire nez, bouche et menton. Et ça s'est bien passé pour une première fois. La première greffe totale de visage, c'était en 2010 en France. Il y en a une à Barcelone aussi. Mais celle-là, qui a été faite au mois d'août dernier, est la plus complète à ce jour parce qu'il y a une partie des os aussi qui ont été... c'est très compliqué, là. C'est-à-dire que là, on ne voit pas faire le geste, là, mais la greffe part du... ce qu'on appelle le scalp, là, en arrière, le crâne. Et vraiment, on vient draper jusqu'ici, jusqu'à le devant de la poitrine, en fait. Et donc, c'est vraiment énorme.
Comme pour mettre un visuel là, pour les auditeurs, le casque de Arnold Schwarzenegger dans Total Recall.
Exactement. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, oui, c'est ça. Ben moi, tu vois, j'avais pas cet élément-là en tête, mais j'avais le film Face Off avec Nicolas Cage, John Travolta, qui n'est pas un très bon film.
Non, qui a un usage fort libéral du phénomène du masque et de tout
ça.
Oui, on va faire une autre émission pour défendre Face Off.
OK. j'ai dit selon mon souvenir. Peut-être je le reverrai, je serais comme, oh my God. Mais c'est très, très esthétique, hein, comment ils font le changement des visages et tout. Bref, c'est Nicolas Cage qui récupère la face de John Travolta. Mais c'est pas aussi esthétique que ça dans la vraie vie pour ce monsieur Patrick-là.
OK, c'est ça, les résultats sont pas...
Ben, c'est parce que ça prend quand même du temps pour le corps d'assimiler ce nouveau visage-là. En fait, c'est un énorme greffon qui a été mis. Et quand on le voit en ce moment, cet homme-là parlait, s'exprimait, on a vraiment l'impression, ça a l'air vraiment bête ce que je vais dire, mais je sais pas si vous vous rappelez dans Men in Black, quand... la femme du gars a dit, on dirait qu'il est dans une... je cherche les mots, là, qu'il est dans une peau trop grande pour lui. Ouais. Ça donne le même effet. Quand il parle, on a vraiment l'impression que tout est comme... Les yeux sont pas à bonne place. C'est très, très étrange. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas de sa faute. Il faut bien que ça se répare et tout. Parce que c'est tout le corps qui assimile cette nouvelle peau.
OK, c'est ça. C'est en voie de
exactement.
Devenir...
Mais ça fait déjà depuis le mois d'août. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est encore hyper boursouflé, encore hyper... Mais ça, c'est une greffe réelle qui a eu lieu au mois d'août dernier. Là. Donc ça, c'est vraiment... On n'est plus dans la science-fiction, là. C'est pas face-off, là. C'est vrai de vrai. Puis...
le film face-off aurait été un peu plus long, si on devait considérer cette technologie-là.
Non, c'est ça. Ah non, mais eux autres, c'est comme clac-clac, on ressoude, puis voilà, c'est tout. Mais donc ça, c'est une des greffes qui était discutée récemment. Ça a duré 26 heures, cette chirurgie-là. Puis il est toujours, évidemment, suivi par le service hospitalier, mais ça pose quand même des questions importantes, à savoir comment tu retrouves ton identité par rapport à ça. Lui, il était très inquiet, entre autres, de savoir ce que ses enfants allaient penser de son visage. C'est un jeune de 26 ans qui lui a donné le visage, qui était mort, qu'on avait déclaré, en fait, cérébralement mort après un accident de vélo. Donc, c'est un visage beaucoup plus jeune que ce que lui avait. Ça pose des questions, en tout cas. Je vous invite aussi à poser vos questions en même temps, parce que moi, je faisais ces recherches-là, puis je me disais, oh my God, ça a des impacts psychologiques assez...
immense!
Ben, c'est ça, tu sais. Vas-y, excuse-moi.
Non, mais je suis en train de dire, genre, on se fait greffer un visage plus jeune. S'il sort d'opération, puis il reste quand même un bel homme, finalement, on lui redonne une deuxième jeunesse? Je sais pas.
Peut-être.
Il y a trop de problèmes, là.
Ah oui?
Ben, c'est ça. Ben, le gars dont il a reçu le visage est un vraiment beau gars, selon des standards, tu sais, donc c'est... Il y a quelque chose là, mais c'est sûr que ce gars-là a été brûlé complètement, mais les questions se posent dans l'avenir, pourra-t-on, à l'envie, changer de face?
Puis quand le gars, il s'est fait proposer son... Tu sais, je peux juste imaginer le premier rendez-vous avec le médecin, on t'a trouvé une face, ça va être du gars-là. Dans sa tête, il était comme, all right!
C'est ça, je sais pas. <T'sais>,
yeah!
Je pense qu'en fait, lui, était surtout...
Il
n'y
avait pas trop
de
choix.
Ben oui,
parce qu'il n'y avait plus de face. il y avait à peine, il n'y avait pas de paupières, il y avait rien, tu sais, c'était assez...
Je veux une face, c'est noble.
Mais je suis pas dans sa tête, je sais pas. Mais sinon, d'autres greffes, je continue dans les exemples de greffes. cette semaine, on a parlé aussi, dans les dernières semaines, une greffe qui est assez particulière aussi, la greffe d'utérus. C'est des nouvelles avenues qui s'annoncent. Le Royaume-Uni, la France, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils vont faire leurs premiers essais de greffe d'utérus, mais ça s'est déjà fait en Suède. Il y a eu 9 naissances jusqu'à maintenant qui ont été faites. C'est en 2014 qu'on a essayé pour la première fois. Il y avait 4 femmes qui ont eu une transplantation d'utérus, dont une, ça c'est vraiment particulier, dont c'était la mère qui a donné l'utérus. La grand-mère.
Quand je t'ai vu lever le doigt, j'ai fait voir quelque chose de...
Ben, moi, personnellement, je trouve ça un peu troublant, sans jugement, bien sûr, mais il y a quelque chose de...
Il est dans cet utérus. C'est une idée nouvelle,
c'est
clairement.
C'est pas incestueux, mais ça habite pas loin. Les cours sont... Ils partagent une clôture.
C'est ça. Sauf qu'une scientifique à qui je parlais, Marianne Desautels Marissal, que je nomme parce qu'elle m'a beaucoup aidée.
Merci.
Oui, tu sais, mais on l'aime beaucoup, qui me disait qu'en fait, on séjourne quand même un petit peu dans la grand-mère à un certain moment de notre vie, mais on est à un niveau, tu sais, autre chose que dans un utérus, on s'entend, là. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant en plus, puis je vais le dire vraiment froidement, mais c'est un peu des locations d'utérus, parce qu'une fois que le bébé est né ou les bébés sont nés...
L'utérus, c'est plus...
On l'enlève.
Oh! Oh.
On l'enlève. Oui. Donc, c'est soit des mères, des grands-mères...
Après usage, c'est jeté après usage.
Après usage, c'est jeté pour pas qu'il y ait des complications, des infections, des choses comme ça. Ah. Donc, c'est assez c'est... particulier. Donc, des, soit de femmes décédées... Ou soit des grands-mères qui donnent leur accord et disent « Oui, pas de problème, let's go. »
Femme décédée, c'est un autre affaire, ça aussi.
Effectivement.
C'est comme une sorte de greffe temporaire.
Ouais. C'est ça.
C'est mais ça, c'est parce que le corps va le rejeter éventuellement, donc on doit l'enlever.
Mais c'est que l'utérus, à travers l'enfantement, se déforme.
Ouais, c'est ça, je présume.
Par des chocs hormonaux, et ainsi de suite, puis après
plus,
ça, ben...
Plus nécessaire, après.
Très juste, oui.
C'est ça. Mais en même temps, c'est sûr que le corps a des... Je veux dire, c'est un gros, comment je pourrais dire, c'est pas anodin, là. Je veux dire, tu te fais poser un utérus, tu le fais enlever après, c'est sûr que ça a des impacts sur le corps, mais c'est des femmes, ça va changer toute la donne aussi, à savoir comment on va faire des enfants éventuellement plus tard, tu sais, est-ce que, bon, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, puis on en vient
à une triste pensée pour Junior, le film de Schwarzenegger. Mais bon, je
veux juste penser.
Non, mais ça non, mais c'est intéressant brillant. Que tu dises ça. Parce que quelqu'un qui est transgenre.
Exact. Qui voudrait. Oui. C'est ça, c'est rendu.
Absolument, c'est réalisable.
Il y a quelque chose là. Fait, en tout cas, merci de l'exemple de. Mais puis on en vient, là, je continue avec les greffes, là, on en vient à la greffe de tête, évidemment, qui a été annoncée, c'est en 2013 que ça a été annoncé, mais là, les gens se posent de plus en plus de questions parce que c'est une grosse annonce. Pour faire rapidement, c'est Sergio Canavero, dont on a parlé plus tôt, un chirurgien italien qui, en 2013, a annoncé, moi, en 2016, et il est tout à fait dans son calendrier jusqu'à maintenant, là, je fais une greffe de tête. Et l'idée, en fait, vient d'un jeune homme allemand qui a une maladie dégénérative qui a, je pense, 26, 28 ans à peu près et qui est vraiment pris dans son corps, donc il n'a rien à faire, et qui a accepté d'être le cobaye pour ça. Mmh. Et lui, Canavero, est tout à fait confiant que ça peut se faire. Pour l'instant, ça n'a jamais été fait dans le monde. Ça a juste été fait des tests sur des chimpanzés. Les chimpanzés, ça a fonctionné, mais ils sont décédés quelques jours plus tard. Donc, il n'y a pas de preuves tangibles que ça peut se faire. Mais lui, Canavero, est tout à fait confiant de réussir, entre autres, à rebrancher
la moelle épinière,
qui est le plus... Mais imaginez une tête, le nombre de ramifications qu'il faut. En tout cas, lui, il est très, très confiant. Il y a une équipe de 150 personnes avec lui pour faire la chirurgie. Si on imagine que Patrick Hardison, ça a pris 26 heures pour faire la chirurgie d'une tête en un one-shot, on s'entend, on prend pas un break, là.
Des jours et des semaines.
Ben, je sais pas combien de temps ça peut prendre. Donc, voilà. Puis, ce qui est intéressant avec le truc de Canavero, c'est que pour l'instant... pour une question bioéthique, il n'y a aucune législation qui est là-dedans et qui s'est prononcée là-dessus. Fait que ça fait plein de questions. Est-ce que plus tard, on parlait du changement de face tout à l'heure, est-ce que plus tard, on va quelqu'un qui a envie de changer de corps va pouvoir le faire? Est-ce que il y a beaucoup de chirurgiens et de scientifiques qui doutent énormément de son approche? Ça pose des questions aussi bêtes que tu te fais greffer une tête, tu te fais greffer un corps, en fait, parce que c'est ta tête que tu veux conserver. Si tu fais des enfants, c'est l'ADN du décédé. Donc, ça pose plein de questions. On revient à la bioéthique là, tout le temps. Là,
absolument.
Ça. Donc, c'est ça. Puis, là, on passe de la tête à une autre sorte de greffe qui est un peu particulière. Puis, tu avais dit, tu m'as eu à cette.
J'avais hâte.
Ouais. Oui, c'est un peu. Je vais y aller vraiment rapidement.
Non, mais c'est de la conclusion.
Mais c'est ça, une greffe. Ouais. C'est une sorte de greffe, mais disons que c'est pas la même. Elle est très temporaire. Mais c'est la greffe fécale, qui est une greffe qui existe de plus en plus au Québec. C'est pour. Contrer la bactérie C. difficile, le j'oublie le nom, c'est beau, je l'avais noté, mais donc la C. difficile qui est quelque chose qu'on peut enrayer avec des antibiotiques, mais des fois qui revient et revient et revient, qui peut tuer des gens. Chaque année, il y a beaucoup de gens qui
meurent. Qui est causé par des antibiotiques, en plus.
Exactement. Ouais. Et grosso modo, c'est un donneur à qui on demande de greffer les selles, qui offre ses selles pour les greffer à l'autre personne. Et donc, ils appellent ça une greffe quand même parce que c'est un corps étranger, une substance étrangère qui intègre le corps et ça a un taux de succès très, très élevé. Et ça sauve des gens. À date, ça sauve énormément de gens.
C'est ce qui compte parce qu'il y a énormément de questions qui sortent de là, mais ça sauve des gens.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Je suis vraiment correct avec ça.
Oui,
mais,
c'est
mais
ça.
Le procédural.
Ah, mais il y a plein de gens qui sont dégoûtés par ça. Il y en a certainement qui ont dit non, qui n'ont pas voulu le faire, mais en même temps, ceux qui ont accepté de le faire ont été sauvés.
C'est ça.
Rien de moins, là. Donc, c'est quand même. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup parce que justement, dans la société, ça passe un peu mal encore, parce que les gens sont comme...
Étrangement, ça nous confronte à un tabou.
Puis là, c'est dommage, on arrive vers la fin, mais c'est parce que ça ouvre la porte à cette idée de la greffe temporaire depuis tantôt qu'on propose. Mm-hmm. Une idée qui ne m'était jamais traversée l'esprit, je vais être bien honnête, là. Je pensais qu'une greffe, c'est un pas vers l'avant, il n'y a pas de retour en arrière.
La pérennité ou assurer quelque chose. Une fois
c'est ça, genre, c'est alors ça. Là, on peut emprunter la force vitale de quelqu'un d'autre ou le corps de l'autre pour ensuite s'en débarrasser, faire comme « c'est bon, le mien est revenu, waouh! »
Exact. Ouais, ben, il y a même, rapidement, là, j'avais tout un truc sur les biohackers, mais on n'aura pas le temps, mais il y a des implant parties qui se font maintenant, donc tu peux te faire installer un implant dans la main, et tu n'es pas obligé de le garder ad vitam aeternam. Ça peut durer jusqu'à 100 ans, mais si tu es tanné de la puce que tu as dans ta main, tu peux l'enlever. Donc ça aussi, c'est une greffe de puce, mais la puce te permet de savoir ce qui se passe dans ton corps, de donner des informations. On parlait du membre tantôt qui était investi de la personnalité de quelqu'un d'autre, mais si je me fais greffer quelque chose, ça peut être moi qui mets des informations dedans.
Tu as ton compte Facebook dans ton pouce.
Oui, tu peux débarrer ton appart.
Oui, c'est comme une autogreffe, une greffe quasiment.
Oui, mais là, c'est une mission sur le biomécanique qu'il va falloir absolument céduler le plus rapidement possible. C'est ça, on a parlé de chimère, on a parlé de c'est ça, dans le virtuel et dans le réel, c'est quoi le rapport, le médical, puis sérieux, je ne saurais comment vous remercier, j'ai la mâchoire à terre, ça fait de la très bonne radio, vraiment, mais nous devons conclure. Merci Myriam, merci Guillaume, merci Philippe, merci, vous êtes toujours les bienvenus. Merci, chers auditeurs, on va aller écouter Technical Kidman, puis Something Stranger.
Au 21 novembre, M pour Montréal présente sa 10e édition et met le paquet. Préparez-vous à 4 jours de concentré musical et découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Dirty Dali, Dead Obies, Pierre Quenders, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com.
Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 10e édition du Célidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2015 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, cilidor.com.
RIDM. 140 films, 2 rétrospectives.
Des ateliers, des rencontres.
Des installations, des soirées festives.
Et une salle interactive.
Le meilleur du cinéma du réel.
La 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
Du 12 au 22 novembre.
ridm.qc.ca.
Mondial Montréal, c'est une occasion festive de se rassembler sur des rythmes endiablés aux sonorités métissées. Cette année marque le 5e anniversaire de l'événement et il fête ça globalement parlant avec des artistes venant de l'Algérie, du Madagascar, d'Israël, du Brésil, du Chili et plus. Alex Cuba, Samito, Florent Volant, Awa, Nano Stern et plus feront vibrer Montréal. 4 jours, 7 salles, 12 pays, 34 artistes, offrez-vous un voyage autour du monde sans pour autant quitter le centre-ville. Pour des renseignements sur les après-midi gratuits, billets...